Acte 3. Décor. Le cabinet de travail de Sherlock Holmes, dans sa maison de Baker Street. Une vaste pièce, gaie et simplement décorée. Mobilier confortable sans recherche exagérée d'élégance. Fauteuil vaste et commode. Cartonnier, un casier à musique. Au mur, plusieurs violons et quelques jolis tableaux avec des cadres simples et de bon goût. Un peu l'aspect général d'un atelier d'artiste. À droite, premier plan, une porte. Au fond, une grande porte communiquant avec la salle à manger. À droite, une cheminée dans laquelle brûle un feu de charbon qui jette dans la chambre une lueur rougeâtre. À côté de la cheminée, un grand fauteuil. Au-dessus de la cheminée, un râtelier de pipe, pot à tabac, etc. À gauche, au fond, sur une table des ustensiles et des flacons de chimie de tous les formats. À gauche, une très large baie en forme de bow window, donnant sur la rue et garnie extérieurement de jardinières garnies de géraniums. Au milieu du théâtre, une table avec des cigarettes et des allumettes, des livres, des papiers. Dans le tiroir de cette table, deux revolvers. Disposer l'éclairage de telle sorte qu'au lever de rideau, tout le théâtre soit dans l'obscurité. Le premier objet visible avant le reste de la chambre sera la lueur rouge du feu. Peu à peu, on découvre Sherlock Holmes étendu sur le parquet devant la cheminée, au milieu des coussins de toutes formes. Il est en robe de chambre et en pantoufles et joue du violoncelle. Scène 1. Sherlock Holmes, Billy, jeune groom en livrée, la veste à boutons traditionnelle.
La cuisinière désirerait savoir si elle peut voir monsieur.
Où est-elle ?
En bas, dans la cuisine, monsieur.
Alors dites-lui que je ne pense pas qu'elle puisse me voir à cette distance-là.
Elle dit qu'elle a besoin de savoir ce que monsieur désire demain pour son déjeuner.
La même chose que ce matin.
Mais monsieur n'a rien mangé ce matin. Il n'était pas ici.
Précisément, je ne serai pas non plus ici demain matin.
Ah, bien. C'est tout ce que monsieur désire ?
Tout ce que je désire. Allons, Billy, allez voir ce qui sonne.
Billy sort. Billy rentrant au bout d'un moment.
C'est monsieur le docteur Watson. Monsieur m'a dit qu'il y était toujours pour lui. Alors je l'ai fait entrer.
Vous avez bien fait.
Billy, de la porte annonçant...
Monsieur le docteur Watson.
Scène 2. Sherlock Holmes, le docteur Watson. Holmes lui tendant la main avec cordialité, mais sans se lever.
Bonjour, Watson. Bonjour, mon vieil ami.
Comment vous portez-vous, mon cher Holmes ?
Très bien, et je suis heureux de vous voir, mon camarade. Cela me rappelle le temps où nous demeurions ensemble ici, dans cette maison. Tiens, vous avez déplacé votre table de toilette dans votre chambre à coucher ?
Comment savez-vous cela ?
Vous avez encore sur le visage à droite quelques poils de barbe. Autrefois, quand vous étiez mal rasé, c'était à gauche. J'en conclus que la lumière vient chez vous d'un autre côté que jadis. Et comme vous n'avez pas pu déplacer votre fenêtre, ce doit être votre table de toilette que vous avez changée de côté.
Admirable.
Vous plaisantez. Un enfant aurait trouvé cela. Et comment se porte Madame Watson ?
Très bien, merci. Elle a pris le train pour la France ce matin.
Regardant sa montre.
À cette heure, elle doit arriver à Paris.
Peste !
Quoi ?
Vous avez là une bien belle montre.
Tendant la main.
Voulez-vous me permettre ?
Watson, tendant la montre.
Volontiers.
Holmes me l'examine.
Elle est jolie, n'est-ce pas ?
Très jolie. Vous ne m'aviez pas dit que votre frère était mort.
En effet, je venais vous la prendre.
Cette montre.
Par exemple, voilà qui est trop fort.
Pas si fort que cela. Les initiales HW gravées sur le couvercle étaient, si je ne me trompe, celles de votre regretté père. Cette montre d'ailleurs a été fabriquée il y a une cinquantaine d'années. pour la génération qui précède la nôtre. Comme les bijoux sont généralement partis du lot qui échoit dans l'héritage au fils aîné, j'en conclus que cette montre devait se trouver entre les mains de votre frère.
Soit, mais comment avez-vous pu deviner qu'il était mort?
Puisqu'elle vous appartient aujourd'hui, ce ne peut être qu'à la suite de son décès. Ne vous l'aurez pas donné, vous étiez mal ensemble.
Regardant la montre.
J'ajoute que ce frère était un homme insouciant, désordonné. Il avait son avenir assuré, mais n'a pas su en profiter. Il a passé une partie de sa vie dans la misère, tout en connaissant de temps à autre des jours plus fortunés. Et en fin de compte, il s'est adonné à la boisson, et il est mort.
Oh, c'est mal, Sherlock. Vous avez évidemment fait une enquête sur la vie de mon malheureux frère, et vous en profitez pour avoir l'air d'apprendre ce qu'il concerne à l'aide de vos moyens fantastiques, car vous n'espérez pas me faire croire que cette vieille montre ait pu vous faire de telles révélations.
Excusez-moi, mon cher, si c'est l'heure de ma vieille manie, je n'ai considéré que le problème en lui-même, sans songer que cette application pourrait vous être pénible.
Mais par quel miracle avez-vous pu deviner?
Je ne devine jamais, Watson. C'est une détestable habitude qui détruit toute logique. Il n'y a rien de merveilleux dans tout ceci. Je vous ai dit que votre frère n'avait ni soin ni ordre. Mais regardez ce boîtier, tout couturé, tout rayé, ce qui prouve l'habitude de porter dans la même poche des objets durs comme des pièces de monnaie ou des clés. Il faut pas être bien malin pour conclure qu'un homme qui en eût si légèrement avec une montre de 50 livres sterling n'a pas beaucoup d'ordre.
Comment savez-vous qu'il était pauvre?
Les prêteurs sur gage en Angleterre ont l'habitude de graver avec une épingle dans l'intérieur des montres le numéro du reçu qu'ils donnent en échange. Or, il n'y a pas moins de 4 numéros de ce genre sur celle-ci. Preuve que votre frère se trouvait souvent dans une situation précaire et qu'il avait, par moments, des retours de fortune qui lui permettaient de rentrer en possession de son bien. Or, ce n'est pas tout. En regardant le boîtier intérieur, vous y verrez des milliers d'éraflures autour des trous destinés à remonter la montre. Et toutes les montres appartenant à des ivrognes ont des marques semblables. Ils veulent remonter le soir, leurs mains tremblent et leurs clés s'échappent. Voilà.
Savez-vous, Holmes, que si vous aviez vécu il y a 2 ou 3 siècles, on vous aurait brûlé comme sorcier?
C'est une opération qui m'aurait évité bien des heures d'ennui.
Il prend une boîte de cuir de laquelle il tire une petite seringue à morphine, à laquelle il ajuste soigneusement une aiguille. Il remplit la seringue d'une liqueur contenue dans un flacon prise également dans la boîte. Puis il remonte la manche de sa chemise, introduit l'aiguille sous sa peau et appuie sur le piston de la seringue. Watson le regarde se livrer à ce manège avec une expression de tristesse, comme un homme qui s'est promis depuis longtemps de ne pas faire d'observation à ce sujet.
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, de la morphine ou de la cocaïne?
De la cocaïne, mon camarade. Je suis revenu à mes amours.
Il replace la seringue et le flacon dans la boîte qu'il referme. Puis, comme s'il sentait déjà l'effet vivifiant de la drogue, il s'étend avec délices sur des coussins.
Voilà des années que vous avez recours à cette satanée drogue, et les doses augmentent de plus en plus tous les jours, jusqu'à la fin.
Oh, voilà des années que je déjeune tous les jours, Watson, et il en est de même jusqu'à la fin.
En déjeunant, on se nourrit avec ces drogues, vous vous empoisonnez, leurs ravages sont lents, mais certains, et elles vous changent un homme du tout au tout.
Je suis tellement dégoûté de moi-même que je ne serais pas fâché de changer.
Holmes, je vous assure.
Ne perdez pas votre temps, mon vieil ami, et changeons de conversation. Puisque vous avez toujours manifesté un enthousiasme excessif, à mon avis, pour les petites aventures de ma vie, Voulez-vous que je vous mette au courant de la dernière?
Volontiers. De quoi s'agit-il?
Du cas du professeur Moriarty.
Moriarty? Je ne me rappelle pas que vous m'ayez jamais parlé de cet homme-là.
Un rude homme, un génie dans son genre, Watson. On l'a surnommé dans son monde le Napoléon du crime, rien que ça. Tapis comme une araignée au centre de sa toile, il guette les mouches qui s'aventurent à sa portée. Et cette toile a des milliers de ramifications qui s'étendent sur toute la surface du globe.
Diable, voilà qui est intéressant.
Et c'est surtout maintenant que l'intérêt atteint son point culminant. Car demain soir, quand 10 heures sonneront, l'heure du professeur Moriarty sonnera en même temps, et le Napoléon du crime aura, je l'espère, fini sa carrière. Alors nous assisterons au plus grand procès criminel du siècle. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 50, c'est 100 mystères insondables jusqu'à ce jour qui s'éclairciront à la fois. 100 forfaits dont chacun mérite la corde.
Mais lorsque cet extraordinaire criminel se sentira définitivement traqué, il se défendra terriblement.
Il se défend déjà, mon cher, et il est en train de me faire l'honneur de concentrer toutes les ressources de son organisation sur un seul but, me supprimer.
Et là, voilà qui est dangereux.
Bah, s'il réussit, cela m'épargnera de recourir à ces pauvres remèdes auxquels vous en voulez tant. Je passe ma vie à essayer d'échapper aux banalités de l'existence. Si le professeur Moriarty peut m'y aider, ce sera un bonheur pour moi.
On peut échapper aux banalités de l'existence sans courir de pareils risques. Vous l'avez bien prouvé, Holmes. Et rien que le désir de démêler l'écheveau des énigmes qu'on vous demande chaque jour de débrouiller vaut la peine de vivre.
Oh, c'est bien monotone, allez.
Monotone, dites que c'est palpitant. Tenez, cette affaire dont vous commenciez à vous occuper la dernière fois que je vous ai vu, cette lettre écrite à une jeune femme par je ne sais plus quel grand personnage, une affaire sensationnelle, si je me souviens bien. Vous aviez trouvé, pensiez-vous, le moyen de forcer leur propriétaire à désigner elle-même la place où elle allait les cacher. Eh bien, votre plan a-t-il réussi?
De point en point.
Alors, la dame s'est trahie.
Oui, mon brave Watson, tout s'est passé comme je l'avais supposé. J'ai mis la main, grâce à mon stratagème, sur ce fameux paquet de lettres, et je l'ai restitué à Miss Alice Brent.
Restitué? Pour quel motif?
Parce que c'eût été un vol de le garder, son contenu étant la propriété absolue de cette jeune fille.
Mais alors, vous avez perdu votre temps.
Non. Si je suis parvenu à gagner la confiance de Miss Brent, ne pouvant m'approprier ses lettres et ses photographies sans son consentement, ma seule ressource était de la décider à me les remettre de son plein gré. Or, les lui restituer, alors qu'elle les croyait perdus pour elle, c'était le premier pas vers sa confiance. Le second dépend de ce qui va se passer aujourd'hui, et j'attends Forman pour me renseigner sur ce point.
Scène 3. Les mêmes Thérèse. Thérèse rentre introduite par Billy. Elle semble hors d'haleine et sous le coup d'une profonde émotion.
« Je vous demande pardon, monsieur. Le groom, quand il a su de la part de qui je venais, m'a dit que vous seriez heureux de me voir tout de suite. »
« Et de la part de qui venez-vous, mademoiselle ?»«
C'est Benjamin. Benjamin, le maître d'hôtel, qui m'envoie. »«
Vous êtes la bienvenue. Merci, Billy. Vous avez été intelligent comme d'habitude. »
Billy salue et sort.
« Maintenant, mademoiselle, je vous écoute. »«
Monsieur, je suis femme de chambre dans une maison où Benjamin sert également. Comme je lui disais hier mon intention formelle de quitter ma place, il m'a donné votre adresse, en m'engageant à venir vous voir. »«
Dois-je comprendre que vous étiez au service de Madame Murray ?»«
Justement.
Vous êtes française, je crois.
Oui, monsieur. C'est à Paris que Madame Murray m'a engagée.
Et qu'avez-vous à me dire de si pressé?
Il s'agit du maître d'hôtel qui me recommandait à vous.
De Benjamin?
J'ai peur pour lui. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Je n'ai pas osé descendre pour aller y voir.
Mais descendre, où cela?
Dans la cave. Il y est allé, lui, et il n'est pas remonté.
Holmes va à la table, tire un revolver d'un tiroir et le glisse dans sa poche.
Vraiment, et savez-vous qui l'a envoyé?
Parbleu, c'est le singe. Oh, pardon, c'est un mot de Paris qui me revient. Je veux dire, le patron.
Horlebar.
Je ne sais pas s'il s'appelle Horlebar. Je ne le connais que sous le nom de Murray.
Et il y avait-il longtemps que Foreman était descendu à la cave lorsque vous avez quitté la maison?
Non, car le soupçon m'est venu tout de suite, dès que j'ai entendu l'horrible bruit.
Elle se couvre la figure.
Ah, ce bruit!
De quel bruit parlez-vous, mademoiselle? Voyons, tâchez d'être calme et de me répondre nettement. À quoi ressemblait-il ce bruit?
C'était comme le cri d'angoisse d'un homme assailli et frappé à l'improviste.
Holmes, à Billy qui rentre.
Billy, mon pardessus, mes bottines. Vous irez ensuite chercher une voiture. Dépêchez!
Il va au tiroir de la table et en tire un second revolver.
Bien, monsieur.
Holmes, revenant à Thérèse.
Avez-vous remarqué si quelqu'un était descendu à la cave à la suite de Benjamin?
Non, monsieur, je ne l'ai pas remarqué.
Holmes, à Billy qui a mis le pardessus sur le canapé et les bottines sur le parquet.
Maintenant ma canne.
Tendant à Watson le second revolver.
Prenez ceci, Watson, vous viendrez avec moi.
Est-ce que je ne ferais pas bien de vous accompagner aussi?
Non, attendez-moi ici au contraire.
On entend au dehors des pas précipités.
Mais que disiez-vous donc? Il me semble reconnaître le pas de Foreman.
Benjamin paraît à la porte.
Ah, quel bonheur!
Scène 4. Les mêmes, Benjamin. Il entre rapidement. Ses vêtements sont couverts de charbon et déchirés en plusieurs endroits. Son désordre ne doit rien avoir de comique. Il a au front, au-dessus de la tempe, une blessure saignante. Holmes, qui commençait à ôter sa robe de chambre, en rattache la cordelière. Benjamin, très maître de lui, les pieds sur la même ligne, les mains au corps, attitude militaire.
Rien de nouveau depuis votre départ, monsieur, sauf ce matin, un peu après 9 heures.
Une minute.
Se tournant vers Thérèse et lui montrant la porte à droite.
Mademoiselle, voulez-vous me faire le plaisir d'entrer dans cette chambre et de vous y reposer un instant?
Thérèse, que le récit de Benjamin semble intéresser.
Mais je ne suis pas fatiguée.
Alors, promenez-vous de long en large. Je viendrai vous chercher quand j'aurai besoin de vous.
Ah, bien, monsieur.
Elle sort. Holmes ferme la porte derrière elle, puis se tourne vers Watson, et pendant tout le reste de la scène, il demeure l'oreille au guet, épiant tous les bruits qui peuvent venir du dehors.
« Donnez donc un coup d'œil à cette blessure, Watson. »«
Ce n'est rien, monsieur. »«
Regardez tout de même, cher ami. »
Watson, examinant la blessure de Benjamin.
« Un mauvais coup, mais heureusement peu dangereux. »«
Bon, alors ?»
Pendant que Benjamin parle, Holmes jette de temps en temps un coup d'œil sur la porte par laquelle Thérèse est sortie, mais sans que ce jeu de scène détourne son attention du récit du maître d'hôtel.
Horlebar et sa femme sont sortis. Je les ai vus prendre une voiture presque devant la porte. Elle est revenue 2 heures après, toute seule. Quelques instants plus tard, le vieux bonhomme avec l'accent étranger a sonné et l'a demandé. Elle l'a reçu et s'est enfermée avec lui dans la bibliothèque, où ils se sont mis à mijoter quelque chose ensemble. Je les ai observés par la fente que j'avais pratiquée à la porte. Ils étaient occupés à confectionner un paquet en tout point semblable à la liasse de lettres qui est entre les mains de Miss Brent. Il vous faut attendre de ce côté à quelques pièges, monsieur. Merci, monsieur le docteur.
Piège dans lequel nous essaierons de prendre ceux qui veulent nous le tendre, mon brave Foreman. Et Holobar, à quel moment est-il rentré ?
Dans l'après-midi, vers 3 heures.
Semblait-il irrité contre vous ?
Il faisait ce qu'il pouvait pour ne pas en avoir l'air, mais au fond, je suis sûr qu'il l'était.
Il a dû avoir une consultation dehors avec quelques conseillers. Et sa femme, quel sentiment me témoignait-elle ?
Maintenant que j'y songe, je me rappelle qu'en entrant, elle m'a lancé un mauvais regard.
C'est qu'elle était présente à la consultation. On a dû les engager à se débarrasser de vous. Holobar vous a envoyé à la cave sous un prétexte quelconque, et vous avez été attaqué dans l'obscurité par 2 hommes, peut-être 3. Vous avez reçu sur la tête un coup d'un de ces boudins remplis de sable qui sont l'arme favorite des malfaiteurs d'aujourd'hui. Vous avez eu la chance de trouver à votre portée pour vous défendre de ces morceaux de bois qui servent à mettre les tonneaux de bière sur chantier.
Mouvement d'étonnement de Benjamin.
Oui, vous avez encore une écharde au coin de votre ongle. Et vous êtes parvenu à vous échapper dans l'obscurité en vous faufilant à travers les tas de charbon.
C'est exactement ce qui s'est passé, monsieur.
Quel homme!
Sûrement, ils se sont adjoints un associé, un homme dangereux à ce que je vois. Non seulement celui qui a ourdi contre vous ce petit complot, mais la confection de ce second paquet dont vous me parlez est certainement due à son inspiration. Il est probable que d'ici peu de temps je recevrai une proposition d'Orlebar pour me vendre les fameuses lettres, pas les vraies, bien entendu. Il prétendra que Miss Brent a changé d'avis et se décide à les négocier. Un rendez-vous me sera offert pour en causer, dans lequel il s'efforcera de me faire payer le plus cher possible son petit travail de faussaire. Après quoi ?
Scène 5. Les mêmes Billy. Billy portant une lettre sur un plateau.
C'est une lettre, monsieur. Une lettre très importante, a dit le commissionnaire.
Holmes, sans prendre la lettre.
Oh, tenez, ou je me trompe fort, ou voici la communication en question. Ayez donc la complaisance de me lire cette lettre, Watson. Mes yeux ne valent plus grand-chose. C'est la faute de tous ces petits flacons que vous aimez tant.
Watson, ouvrant la lettre.
Cher monsieur...
Holmes, qui s'est étendu sur un fauteuil encombré de coussins.
Ah bah, qui donc m'écrit si familièrement ?
C'est signé James Holobar.
Ah, quelle bonne surprise ! Voyons ce que cet excellent James désire de moi.
J'ai l'honneur de vous informer que Miss Brent a changé d'avis en ce qui concerne les lettres que vous désirez obtenir d'elle. Elle est prête à vous les céder, sous certaines conditions, que Miss Brent me laisse le soin de débattre avec vous. Je vous avise donc que, contre argent comptant, tous les documents, y compris les portraits, seront à votre disposition. Si vous désirez vous entretenir avec moi à ce sujet, nous pourrons nous voir ce soir chez un de mes amis, en son domicile de la cité à 11 heures. Trouvez-vous à 10h30 au coin du pont de Waterloo. Une voiture fermée vous attendra et le cocher vous conduira à la maison en question. Si vous vous faisiez suivre ou si vous essayez n'importe quelle tentative hostile, il est inutile de vous dire que l'affaire proposée avorterait du même coup. Votre bien sincèrement, James Holobar.
Pendant qu'il lit, Holmes écrit nonchalamment quelques lignes.
Ce soir, 10h30, une voiture au coin du pont de Waterloo. Personne ne doit m'accompagner, ni me suivre, ou la faire dans l'eau. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
C'est bien cela.
Holmes, tandis qu'il cachette son billet.
Billy !
Monsieur Désir ?
Holmes, lui tendant le billet qu'il vient d'écrire.
Remettez celle-ci à l'homme qui attend.
C'est une femme, monsieur.
Holmes, l'œil fixe devant lui.
Ah, vieille ou jeune ?
entre deux âges.
Elle est venue en cab ?
Non, monsieur, dans une voiture fermée.
Connaissez-vous le cocher ?
J'ai déjà vu sa figure, mais je ne peux pas me rappeler où.
Remettez ce mot à cette dame et regardez encore une fois la tête de ce cabman.
Billy, prenant la lettre.
Oui, monsieur.
Il sort. Scène 6. Watson, Holmes, Benjamin, puis Thérèse.
Ai-je bien compris, Holmes, votre intention est d'aller à ce rendez-vous ?
Vous l'avez dit.
Mais c'est le faux paquet qu'ils veulent vous vendre. Hein.
Je l'espère bien, car c'est précisément celui dont j'ai besoin.
À quoi peut-il vous servir ?
Et à me donner le moyen, mon cher Watson, de mettre enfin la main sur le vrai.
Il va à la porte de la salle à manger et appelle.
Mademoiselle !
Mais cet homme-là vous veut du mal.
Holmes, touchant sa poitrine du bout du doigt.
Et croyez-vous que cet homme-ci lui veuille beaucoup de bien ?
À Thérèse qui vient d'entrer.
Ayez la complaisance, mademoiselle, de prêter une attention scrupuleuse à ce que je vais vous dire. Ce soir, à 11 heures, j'ai rendez-vous avec M. Arlebar dans le but de lui acheter le paquet de lettres dont vous venez de nous entendre parler pendant que vous écoutiez par le trou de cette serrure.
Moi, monsieur ?
Oh, je ne vous en veux pas. Mais je désire que vous mettiez Miss Brent au courant de mon acquisition, en lui laissant supposer que je crois faire l'emplette du vrai paquet de lettres.
Je comprends très bien, monsieur.
Vous êtes intelligente. Un mot encore. Demain soir, je vous demanderai de bien vouloir accompagner votre maîtresse ici. J'ai, avec deux diplomates étrangers, le comte Stahlberg et le baron d'Altenheim, une entrevue à laquelle je serais heureux que Miss Brent pût assister. D'ailleurs, vous recevrez des instructions demain matin.
Bien, monsieur.
Elle salue et sort.
Foreman.
Monsieur.
Prenez votre transformation de mendiant en numéro 14 et faites-moi le plaisir d'explorer, dans un périmètre d'un mile environ, les bars qui entourent la maison des Orlebar. Tâchez, si vous le pouvez, de recueillir quelques indices sur leur nouvel associé. J'en ai besoin. Attendez-vous absolument besoin.
C'est compris.
Scène 7. Sherlock Holmes, Watson, Benjamin, Billy. Billy entrant.
Monsieur, il y a en bas, à la porte de la rue, un homme qui voudrait parler à monsieur Benjamin Foreman.
Holmes, il se dirigeait sur la gauche, s'arrête brusquement.
Ah ah! Il ne serait peut-être pas mauvais de jeter un regard sur cet individu. Faites-le bonté, Billy.
Il ne peut pas, monsieur. Il est en train de surveiller un homme dans la rue. C'est un détective.
Un détective? Si j'allais voir ce qu'il veut.
Non!
Benjamin s'arrête. Holmes réfléchit.
Pourtant, si, peut-être. Mais avant, examinez bien l'homme et soyez prêt à tout événement.
Vous pouvez vous fier à moi, monsieur.
Il sort.
Billy, suivez Foreman et venez me dire comment cela se passe avec ce détective.
Oui, monsieur.
Il sort derrière Benjamin. Watson, à Holmes qui semble écouter et réfléchir.
Voilà qui devient de plus en plus intéressant.
Holmes ne répond pas. Il écoute toujours, puis se dirige vers la fenêtre à travers laquelle il jette un regard.
Dites-moi, mon cher Holmes, puisque vous avez eu la bonté de me dire déjà quelques mots de cette affaire...
Une seconde, je vous prie.
Un silence après lequel Billy entre.
Foreman est toujours en bas ?
Non, monsieur. Il est parti avec l'homme.
Alors, c'était vrai, cette communication ?
Peut-être. Merci, Billy.
Billy sort.
Vous parliez, Watson, de cette affaire de Miss Brent.
Précisément, j'en connais le commencement. N'aurez-vous pas l'amabilité de me mettre au courant du reste?
Que voulez-vous que je vous dise de plus?
Par exemple, ce que vous avez l'intention de faire de ce faux paquet de lettres pour lequel vous allez peut-être risquer votre vie.
Holmes, regardant Watson pendant quelques minutes avant de parler.
J'ai l'intention, à l'aide de ce faux paquet, de décider Miss Brent à me donner volontairement l'original. Je serai obligé, pour parvenir à mon but, d'avoir recours à un stratagème qui me fait presque honte et auquel je ne me serais certainement pas arrêté si j'avais connu cette jeune fille comme je la connais aujourd'hui.
Paraissant absorbé par une autre idée tout à fait étrangère à la question qui le préoccupe.
Oui, c'est mal, très mal de ma part d'agir ainsi, car elle est charmante, cette enfant, Watson. Absolument et en tout point charmante.
D'ordinaire, mon excellent ami, quand vous êtes attelé à votre besogne, vous ne vous préoccupez guère du charme des femmes en face desquelles vous vous trouvez.
C'est vrai, mais je n'ai pas pu rester indifférent à celui-là.
Watson, le regardant avec une surprise croissante.
Vraiment, serait-il donc possible que cet inattaquable cœur eût subi...
Billy, entrant.
Que monsieur m'excuse. Mais Benjamin vient d'envoyer de chez le pharmacien du coin pour dire que sa tête lui fait plus mal que tout à l'heure et qu'il serait obligé au docteur Watson s'il voulait venir y donner un coup d'œil.
Certainement, j'y vais tout de suite.
Prenant son chapeau.
C'est singulier, cette blessure n'avait pourtant pas l'air si sérieuse. Je reviens dans 5 minutes.
Il sort.
Billy.
Monsieur.
Qui est venu faire cette commission de la part de Foreman?
Le garçon du pharmacien.
Lequel de ces garçons?
Ce doit être un nouveau, car je ne l'avais encore jamais vu.
Vite, Billy, courez derrière le docteur. Je redoute pour lui quelque danger. Revenez me mettre au courant immédiatement. Ne prenez pas la peine de monter jusqu'ici. Sonnez 2 fois à la porte d'en bas. J'entendrai. Surtout hâtez-vous.
J'y cours, monsieur.
Il sort rapidement. Holmes reste sans bouger et comme hésitant. Il fait un pas vers la salle à manger, puis s'arrête brusquement, prêtant l'oreille. Il se tourne vers la cheminée et prend une pipe dans sa main gauche. Il la bourre et l'allume tout en écoutant. La pipe entre les dents, il va vers la table où il a déposé son revolver et le glisse dans la poche de sa robe de chambre où il continue à le tenir dans sa main. Il semble très à l'aise et ne perd pas de vue la porte. Scène 8. Sherlock Holmes, Moriarty. Moriarty entre par la porte de l'antichambre. Il marche d'un pas résolu, mais s'arrête sur le seuil, les yeux fixés sur Holmes. Il tient sa main droite derrière son dos. Au moment où Moriarty fait un pas en avant, la main de Holmes se crispe involontairement dans la poche de sa robe de chambre.
C'est une dangereuse habitude de garder des armes à feu dans la poche de sa robe de chambre.
Dans 3 minutes, on vous transportera à l'hôpital si vous continuez à garder votre main derrière le dos. Laissez votre revolver où il est, vous entendez?
Soit, je désarme, mais c'est à la condition que vous m'imiterez.
Les deux hommes, très lentement, remettent dans leur poche les revolvers qu'ils en avaient brusquement tirés.
Voilà. Il faut savoir faire des concessions aux gens qu'on reçoit.
Vous ne me connaissez évidemment pas, monsieur Holmes.
Holmes, retirant sa pipe de sa bouche et laissant échapper une bouffée de fumée.
Je vous demande pardon. J'ai ce plaisir. Je dirais même que depuis un instant, je vous attendais. Veuillez prendre une chaise, monsieur Moriarty. Si vous avez, comme il me semble, quelques communications à me faire, j'ai 5 minutes à vous accorder.
Moriarty fait un mouvement avec sa main droite, comme pour prendre quelque chose dans son pardessus. Il s'arrête brusquement en voyant Holmes l'ajuster avec son revolver, et sa main reste dans la position exacte où elle s'est arrêtée.
Pardon, mais puis-je vous demander ce que vous alliez faire?
Regardez l'heure à ma montre, puisque votre temps est si mesuré.
Oh, ne prenez pas cette peine. Je vous dirai quand les 5 minutes seront écoulées.
Moriarty s'avance lentement jusqu'au dossier de la chaise que lui a désigné Holmes, sur lequel il continue à avoir les yeux fixés. Il ôte son chapeau et s'incline doucement pour le poser sur un tabouret. Holmes replace son revolver sur la table. Mais, à ce moment, Moriarty lève à nouveau sa main droite. Holmes me reprend tranquillement son revolver, prêt à tout événement. Moriarty, en voyant le geste de son adversaire, porte la main à sa gorge. Il ôte un cache-nez de laine qui lui entoure le cou et le met dans son chapeau. Pendant ce temps, simultanément, Holmes me regagne l'autre côté de la table qui se trouve ainsi entre deux et pose son revolver sur cette table.
« Vous devez probablement avoir réfléchi à ce que je viens de vous dire. »
« Et vous avez sans doute réfléchi à ce que je vais vous répondre. »
« M'est-il permis de vous demander, monsieur Sherlock Holmes, s'il entre dans vos intentions de continuer à vous occuper de moi encore longtemps ?»«
Mais jusqu'à ce que je sois arrivé au but que je poursuis, monsieur Moriarty. »
« Je regrette cette détermination, et moins pour moi, laissez-moi vous le dire, que pour vous. »
« Je partage vos regrets, professeur, mais à votre endroit seulement, et à cause de la position fâcheuse dans laquelle vous allez prochainement vous trouver. »
« Puis-je vous demander à quelle position vous faites allusion ?»«
Mais à celle qu'occupe généralement 5 ou 6 pieds du sol au bout d'une corde, l'homme que la loi condamne à être pendu. »
Moriarty fait un pas vers Holmes. Il s'arrête immédiatement en voyant la main de celui-ci se poser sur son revolver.
« Et vous vous figurez que je vous laisserai le loisir de contempler ce réjouissant spectacle ?»«
Ceci me préoccupe fort peu, pourvu que le spectacle ait lieu. »
À cette réponse, Moriarty fait un mouvement brusque. Holmes saisit son arme et le met en joue. Moriarty est maintenant tout près de la table qui, seule, le sépare d'Holmes.
« Savez-vous que vous avez une belle audace de me faire en face un pareil aveu ? Mais cette audace vient de votre ignorance. Avez-vous l'illusion de croire que je serais ici si je n'avais pris toutes mes mesures pour me garantir ma sûreté ?»«
Non, professeur, je ne vous connais pas au point de vous supposer un tel courage. » »«
Vous savez, n'est-ce pas, que votre ami le docteur et votre fidèle Benjamin ne seront pas de retour avant quelque temps ?»«
Je m'en doute. »
Puisque leur absence prolonge notre tête-à-tête, nous allons pouvoir traiter de nos affaires en toute tranquillité, sans crainte d'être dérangés. Et d'abord, je désirerais appeler votre attention sur quelques remarques que j'ai notées sur ce carnet.
Il porte rapidement la main à sa poche de côté.
« Bas les mains !»
Moriarty arrête brusquement son mouvement.
« Bas les mains, je vous dis !» Je vous dispense de me montrer le carnet auquel vous faites allusion. »
Moriarty laisse retomber sa main sur son genou.
« C'est dans le but de... »«
C'est un but qui ne m'intéresse pas. »
Moriarty faisant une nouvelle tentative pour lever les mains.
« Mais je voudrais vous montrer... » »«
Et moi je ne veux pas voir. Je vous répète que ce carnet m'est indifférent. Cependant... »
Il appuie de la main gauche sur la sonnette électrique en tenant toujours son revolver de la main droite.
« Je vais vous prouver encore mon souci d'être agréable à mes hôtes. »
« Il me semble que votre domestique ne répond pas vite à votre sonnette. »«
Tranquillisez-vous, il finira bien par répondre. »
« Peut-être tardera-t-il plus que vous ne le supposez. »
Moriarty a repris son foulard qu'il remet à son cou, essayant encore à l'abri de ce mouvement de porter la main droite à sa poche. Un geste de Holmes, armé de son revolver, l'arrête.
« Je vais sonner encore une fois. »
« Je crois être à peu près certain qu'il ne viendra pas. »
« Vous seriez attaqué à cet enfant ?»«
Quelle supposition ! Mais il est peut-être retenu malgré nous. »
« Cela peut en effet arriver à tout le monde. Qui sait si demain, monsieur Moriarty, le même désagrément ne vous arrivera pas. »
Scène 9. Les mêmes Billy. Billy entre en courant. Sa livrée est complètement en lambeaux. Le devant de sa veste n'existe pour ainsi dire plus. Geste de colère de Moriarty à sa vue.
« Excusez-moi, monsieur, mais tandis que je courais chez le pharmacien, un ivrogne qui marchait en sens inverse m'a heurté et je suis tombé par terre. »
« Et vous avez mis si longtemps à vous relever ?»«
C'est qu'au même moment, une automobile descendait la rue à toute vitesse. Le conducteur n'a pas eu le temps d'arrêter. »«
Et ?»«
Et La voiture m'a passé sur le corps. Mais quand on est agile, il faut que ça serve. Je me suis allongé vivement dans le sens de l'automobile et je m'en suis tiré comme monsieur voit. Par exemple, ma livrée a été plus endommagée que moi.
Ah, je suis heureux, Billy, que vous ayez pu échapper à ce danger. Et je suis certain que monsieur, qui semblait s'intéresser à votre aventure, partage le plaisir que j'éprouve.
Merci bien, monsieur.
Et justement, Billy, monsieur désirait que vous lui rendiez le service de prendre quelque chose dans la poche droite de son vêtement.
Holmes a désigné Moriarty en étendant sa main droite, qui est toujours armée de son revolver. Mouvement de Moriarty encore une fois calmé à la vue de l'arme.
Il n'est pas tout à fait dans son assiette aujourd'hui, et le moindre mouvement le fatigue. Ayez donc la complaisance de faire celui-là pour lui, dans la poche, droite.
Billy, obéissant à Holmes, va à Moriarty et tire de la poche de celui-ci un revolver.
Est-ce cela, monsieur ?
Parfaitement. Veuillez poser cette arme sur la table. Non, pas là, Billy, non, un tout petit peu plus, près de moi.
Billy, après avoir mis le revolver sur la table à portée de Holmes.
Faut-il voir s'il y en a un autre ?
Oh non, inutile de vous donner cette peine. Les tentatives réitérées de monsieur pour tirer cette arme de sa poche me font croire qu'il ne doit avoir que celle-là sur lui.
C'est tout ce que monsieur désire ?
Maintenant que vous avez votre carnet, professeur, je ne pense pas que les services de mon groom vous soient nécessaires plus longtemps. Non. Alors vous pouvez vous retirer, Billy.
Pendant que Billy sort, Holmes joue négligemment avec le revolver de Moriarty.
Parlons peu et parlons bien. Le 4 janvier dernier, vous avez commencé à vous occuper de moi. Le 23, vous m'avez gêné. Et aujourd'hui, à la fin d'avril, vous semblez décidément vouloir vous attaquer à ma liberté.
Et à quelle conclusion en arrivez-vous ?
À celle que je vais vous notifier. Si vous ne vous décidez pas à me laisser tranquille, monsieur Holmes, à partir de la minute présente, je ne donnerai plus ça de votre vie.
Jeu de scène en faisant claquer son oncle sur ses dents.
Eh bien, mon cher monsieur Moriarty, je vais entrer dans vos vues.
Mouvement de Moriarty.
Je suis décidé à ne plus m'occuper de vous à compter de demain soir 10 heures.
Pourquoi ce délai ?
Parce qu'à cette heure-là, cher monsieur, vous signerez vous-même votre écrou à la prison de Newgate, et que moi non plus, je ne donnerai pas ça de votre vie.
Même jeu de scène que plus haut.
J'avais raison tout à l'heure de dire que vous ne me connaissez pas. Il y a 24 heures d'ici à demain, c'est-à-dire 24 fois plus de temps qu'il n'en faut pour déblayer ma route de tout ce qui la gêne. J'avais provoqué cet entretien pour vous offrir une chance de salut, en renonçant à une lutte qu'aucune police du monde n'est de taille à soutenir. Votre intelligence m'intéressait, car je sais apprécier le talent, et j'hésite à le supprimer quand je peux faire autrement. Vous ne l'avez pas compris, tant pis pour vous.
Quand j'étais tout petit, monsieur Moriarty, ma nourrice m'a appris à ne pas trembler devant les fantômes et les loups-garous.
Votre nourrice était une femme de bon sens, monsieur Holmes. Mais elle aurait dû vous dire qu'il y a des loups-garous qui mordent et des fantômes qui tuent.
Tous les deux se bravent du regard.
Je suis désolé, professeur, mais le plaisir de votre conversation me fait oublier les affaires importantes auxquelles je dois mes soins.
Il se tourne du côté de la cheminée et semble chercher une allumette. Moriarty se lève doucement, prend son chapeau, les yeux fixés sur Holmes. À la vue du revolver qui est resté sur la table, il fait lentement un pas de côté et dépose son chapeau à côté du pistolet pour ajuster son foulard. Holmes enflamme une allumette et allume nonchalamment sa pipe. Moriarty, en reprenant son chapeau, dirige doucement la main vers son revolver qu'il parvient à saisir.
« Je vous ai averti du danger que vous couriez. Mes conseils ne vous ont pas persuadé. Ceci vous convaincra peut-être. »
Rapidement, il lève son arme vers Holmes et appuie sur la gâchette pour faire feu. Holmes s'est retourné tranquillement sur lui, continuant à allumer sa pipe, de telle sorte que l'arme est dirigée en plein sur son visage. On entend le claquement du chien répété 3 ou 4 fois de suite, sans que le revolver parte.
« Excusez-moi !»
Il jette son allumette et prend dans la poche de sa robe de chambre plusieurs cartouches, qu'il jette dans le chapeau que tient Moriarty.
« Je ne supposais pas que vous auriez encore besoin de votre revolver. J'avais retiré les cartouches et je les avais mises dans ma poche. Mais vous les trouvez là, au complet. »
Moriarty, maîtrisant son dépit et avec dédain.
« C'est de l'escamotage, cela, monsieur Holmes. »
« Dans notre métier, il faut bien faire un peu de tout. »
Il va à la cheminée et sonne. Mouvement de rage de Moriarty. Billy, entrant.
« Monsieur a sonné ?»«
Reconduisez monsieur Billy avec tous les égards qui lui sont dus. »«
Par ici, monsieur. »
Moriarty, il regarde Holmes avec rage et lui tendant le poing.
« Nous nous reverrons, Sherlock Holmes. »
J'en serai toujours enchanté, professeur Moriarty.
Il continue à allumer sa pipe et lance presque au visage de Moriarty une longue bouffée de fumée. Celui-ci, avec un geste de fureur, se dirige vers la porte que lui indique Billy. Rideau.